Bonjour à toutes et à tous, Christophe, Julien pour vous accueillir dans Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Anciel qui nous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets divers et variés. On va commencer par cette nouvelle que j'ai piochée hier sur un fil d'actualité. Strasbourg, la ville de Strasbourg, va attaquer l'État pour sa défaillance à mettre à l'abri les gens de la rue. C'est peut-être l'occasion de reparler des gens de la rue. Il y en a de plus en plus, on peut l'observer autour de soi, d'ailleurs un peu dans toutes les villes de France. On est à quelques jours ou quelques semaines de Noël. Voilà qui interpelle.
Bonjour à vous Christophe et à tous ceux qui écoutent. Je ne connais pas très bien la situation de Strasbourg et pourquoi il y a ce conflit entre la ville et l'État. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit beaucoup de gens en grande précarité. Alors, il y a ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Je pense que ceux qu'on ne voit pas, c'est comme l'iceberg, la partie immergée qui n'est pas visible, mais qui est bien plus grande. Notamment, j'écoutais par exemple la croissance des demandes d'étudiants d'aide alimentaire. Donc c'est aussi des précarités réelles de jeunes qui veulent étudier, notamment ceux qui n'ont pas de famille, notamment les étudiants étrangers par exemple, qui sont vraiment en demande d'aide pour finir de payer à la fin du mois un peu de nourriture simplement. Donc dans ce grand pays, on avait dit que le rapport du Secours catholique disait que 10% des Français, hein, 7 millions de Français font appel à l'aide alimentaire, ça montre à quel point, bien qu'il y a beaucoup d'argent dans beaucoup de lieux, eh bien, tout le monde n'en bénéficie pas. Et je pense que le cœur aussi doit être attentif, parce que la demande n'est pas seulement matérielle de ces personnes-là, elle est aussi une demande affective, de reconnaissance, d'exister pour l'autre. Donc en ce temps de Noël, je souhaite vraiment, même dans les paroisses, qu'on multiplie les repas de Noël, qu'on accueille à sa table, qu'on prenne soin de gens qui sont peut-être logés, mais qui sont seuls, qui sont en grande dépendance. J'ai pu aller d'ailleurs à la ressourcerie, par exemple, à Épernon. J'étais admiratif des gens qui étaient accueillis par Maud, notamment une femme tout à fait généreuse avec le responsable qui recueille beaucoup d'objets, beaucoup de choses. Ils font travailler quasiment 20 personnes, des gens en réinsertion, des jeunes en alternance, quelques salariés, pour trier des choses incroyable de câblage, de matériel électronique, de vêtements, de vaisselle, de matériel, comme on dit, blanc. Et ça sert à des gens qui viennent là acheter. On est un très beau magasin de ressourcerie, très bien présenté. Et on a envie d'acheter parce que c'est beau et c'était des objets donnés. Et ça coûte quasiment pas grand-chose pour équiper sa maison. Donc c'était une très belle chose. Et ça va se multiplier, et tant mieux.
La lutte contre la pauvreté, c'est aussi des politiques publiques. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a fait assez de ce point de vue-là ?
Je pense qu'on peut toujours dire qu'il ne fera pas assez, mais pourtant on fait beaucoup, je pense. On donne beaucoup d'aide. Je parlais avec une responsable chez EDF de l'aide, la solidarité que fournit EDF auprès de très nombreuses personnes qui ne peuvent pas payer le courant électrique. Donc il y a des gens qui travaillent, des salariés qui travaillent à aider ces gens. Donc il y a beaucoup de choses qui se font par ailleurs. Il ne faut pas non plus le nier, mais on n'est pas toujours au courant non plus. Ouais. Après ça, faire plus, à voir. Mais c'est une question qu'il ne faut pas refermer en tout cas. Ce n'est pas un dossier à refermer.
Alors, je ne sais pas si le second sujet a à voir avec le premier. Je me dis que peut-être, j'ai lu aussi que la natalité avait chuté brutalement en France un mois d'octobre, sauf dans certaines zones rurales. Néanmoins, elle a beaucoup chuté. Je me dis que peut-être justement la crainte de la pauvreté, de la paupérisation, les crises successives économiques et énergétiques font que les gens finalement, et peut-être hésite aujourd'hui à faire des enfants. Il y a une crainte. Comment restaurer la confiance ?
D'abord, c'est toujours un peu triste de voir que des gens ont peur d'accueillir la vie. Après ça, il faut l'accueillir de manière raisonnable. Pour certains, peut-être avoir deux enfants, c'est très bien, et c'est même beaucoup. D'autres en auront trois ou quatre. Chacun doit décider en conscience ce qu'il peut faire, vivre, comment aimer, puis comment accueillir dans de bonnes conditions un enfant. C'est important. Après, c'est vrai que nos continents anciens, notamment l'Europe, est en très grosse baisse de natalité, alors que l'Afrique va exploser d'ici 20 ans, va doubler. On dit que dans le monde entier, on est arrivé à 8 milliards d'habitants, on pourrait se stabiliser vers 10 milliards, 10 dans les années 50, 60, 70, et ensuite on reverrait une descente, parce qu'en fait, partout, on voit la descente. L'Amérique latine, par exemple, est devenue un continent qui ne se renouvelle pas. L'Amérique du Nord non plus, l'Europe non plus. Donc on a des pays qui vont continuer à croître encore un peu, comme l'Inde, qui va dépasser la Chine. Et puis ensuite, il y aura sûrement un effet de stagnation. Ce qui se passe, c'est que si nous, on perd beaucoup de population, ce qui est possible d'ici la fin 2100, eh bien, les populations excédentaires, notamment de l'Afrique, arriveront en Europe. Et donc, on aura peut-être dans un siècle un visage très différent de l'Europe.
Ouais. Alors, est-ce qu'on doit absolument, justement, avoir une expansion démographique ? On sait qu'on a du mal à nourrir tout le monde et que la Terre elle-même a du mal à nourrir tout le monde. Est-ce que...
La Terre pourrait nourrir beaucoup plus de personnes, on le dit, si la nourriture était bien distribuée, bien conservée, pas gaspillée, alors qu'on en gaspille beaucoup. En France, c'est 30% de la nourriture disponible qui est gaspillée. États-Unis, c'est 50%. Donc, les guerres, par exemple, c'est un énorme problème pour eux, pour permettre à la nourriture, comme en Ukraine, d'accéder ensuite aux lieux de consommation. Donc, il y a aussi cette question de la paix. La paix est nécessaire pour que les gens mangent.
La conférence des évêques de France a inauguré lundi 5 décembre un tribunal canonique national. De quoi s'agit-il au juste ?
Bien, l'Église, en fait, et l'Église de France, en fait, et c'est la première fois dans le monde que ça se fait, a choisi, donc les évêques ont choisi, on l'a décidé il y a quelque temps, suite au rapport de la CIAZ qui le recommandait, eh bien de créer ce tribunal pénal canonique. En fait, l'Église, comme institution cultuelle, a sa autonomie pour juger des personnes, qui soient des laïcs ou des clercs, qui commettent des délits qui peuvent être liés à la foi, qui peuvent être liés à un autoritarisme, abus de pouvoir, qui peuvent être liés aussi à des abus sexuels sur majeurs. Et donc, l'Église a choisi de créer ce tribunal en appelant une quinzaine de personnes en responsabilité. Notamment, il y aura un président qu'on appelle un vicaire judiciaire. Il y aura des avocats, il y aura des juges. Parmi eux, beaucoup de laïcs, et parmi les laïcs, une majorité de femmes qui sont formées en droit canonique. Ça n'exclut pas que des fidèles qui ont une plainte à déposer devant la loi civile le fassent, bien sûr. Mais un délit canonique n'est pas forcément un délit civil. Par exemple, un acte d'apostasie de la foi, c'est un délit canonique, mais ce n'est pas un délit civil. Et ensuite, ce tribunal, on dit qu'il aura d'abord, il aura des compétences que chaque diocèse n'est pas capable de rassembler, donc il aura des compétences tout à fait appropriées. Et puis aussi, on appelle ça un peu le dépaysement des causes, c'est-à-dire qu'on sera non pas dans le diocèse même où les faits se sont passés, il y aura une distance géographique pour plus d'objectivité, pour plus de liberté aussi peut-être de juger objectivement la situation. Voilà. Et donc, ce tribunal va commencer à recevoir des causes, des demandes, et moi, j'en suis très content.
Ouais. Pour finir, je souhaiterais qu'on parle de l'Avent, parce qu'on est entré, évidemment, dans le temps de l'Avent, il y a déjà quelques temps. C'est un moment, évidemment, important pour chaque chrétien, et c'est un moment d'accueil, peut-être, avant toute chose.
L'Avent, c'est 4 semaines qui précèdent Noël, donc pour nous, c'est l'occasion de se préparer à célébrer cette belle fête de Noël, comme elle est. C'est-à-dire, la fête de Noël, pour nous, c'est vraiment la venue de Jésus, qui est cet enfant Dieu, on peut dire, le Verbe divin fait chair en Marie, par l'action de l'Esprit-Saint, et donc cet enfant vient et sera ce Jésus qui ensuite parlera, enseignera, guérira. Pour l'instant, on le regarde dans sa petitesse, sa précarité, même on pourrait dire aujourd'hui, avec Marie-Joseph, ses parents, qui vont devoir cheminer de Nazareth à Bethléem, où elle va naître. L'Avent, c'est donc un temps où on peut aussi se dégager un peu du temps. On peut nettoyer un peu sa maison, on peut susciter une lecture, des textes, notamment du prophète Isaïe, qui sont beaucoup lus dans ce temps de l'Avent. On peut aussi, bien sûr, rencontrer sa famille, rencontrer ses proches, préparer quelques cadeaux de qualité pour ceux qui veulent. Notamment, je vois les enfants qui font des cartes postales qui seront données dans les maisons de retraite, par exemple. Ça fait très plaisir aux personnes âgées. Donc, c'est tout un temps un peu familial, et profond pour prier.
Alors, les premiers, finalement, à avoir vécu le temps d'avant, eh bien, c'est Joseph et Marie. Ils l'ont vécu d'une manière dans l'angoisse, la précarité.
Oui, parce qu'en fait, l'empereur avait souhaité faire un recensement, donc connaître les forces de son empire. Et donc il fallait retourner dans la ville de ses ancêtres, et Joseph est de la lignée de David. David, un roi qui était là 1000 ans avant que Joseph ne vive, mais il faut retourner dans cette ville de Bethléem, et donc il va emmener sa femme Marie enceinte de Jésus par des chemins un peu précaires. Sur place, ils n'auront pas d'auberge. Ils sont des pauvres, ils vont trouver qu'une sorte de grange, une étable, une grotte, on ne sait pas très bien en tout cas, où vivent des animaux, et c'est là qu'elle mettra au monde son enfant. Donc il y a une vraie précarité de la venue du Fils de Dieu, c'est un peu le miracle étonnant.
Vous rendiez hommage la semaine dernière aussi à Joseph, qui occupe une place très singulière, parce que Marie, elle, sait ce qu'elle attend. Mais Joseph est obligé de faire confiance finalement, et on ne parle peu de Joseph.
On parle peu de lui, pourtant c'est... Et d'ailleurs on n'a aucune phrase de lui, on n'a pas un mot de lui, mais on a dans l'Écriture sainte plusieurs épisodes où il est visité par un ange, il a un songe très fort, et il obtempère, il décide d'emmener son épouse, il décide de se marier avec elle alors qu'il apprend qu'elle est enceinte et que ce n'est pas de lui. Il décidera ensuite de partir en Égypte quand il apprend que Hérode veut tuer l'enfant. Enfin, on voit un homme décidé, un homme sûrement très tendre, qui se met entièrement au service de sa femme et de cet enfant. Et en ce sens, il est un beau modèle de père. On l'appellera l'homme juste dans l'Écriture.
On peut dire que c'est le premier homme de foi de la chrétienté, non ? Au sens où...
Parmi les chrétiens, oui, il y a aussi Jean-Baptiste après, mais oui, on peut dire que Joseph est vraiment une figure tout à fait première dans la foi de l'Église naissante, même si sa foi, elle est ancrée dans une tradition juive, et que dans la tradition juive, il y a beaucoup, beaucoup de prophètes, de patriarches, de gens qui l'ont précédé et qui doivent, à mon avis, être pour lui des modèles de foi.
Ouais. Comment vivre finalement ce temps de l'Avent pour un catholique contemporain ? Est-ce que c'est de l'ascèse ? Est-ce que c'est un temps qu'on peut vivre tout simplement tout en grignotant de temps en temps quelques chocolats, ouais, voilà.
Je dirais pas de l'ascèse, oui, les enfants ont parfois ce calendrier de Noël avec à chaque fois un petit chocolat quand ils ouvrent la porte de chaque jour. Moi, je dirais c'est un temps de la simplicité, de l'intériorité, du silence aussi. Donc, ce n'est pas un temps où on jeûne beaucoup comme en carême, mais un temps où on est plutôt dans l'attente. Et cette attente, il faut la cultiver par un vrai désir de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu particulièrement, notamment les évangiles de l'enfance qu'on va trouver chez saint Luc et saint Matthieu particulièrement. Je pense qu'il faut se dépouiller un peu de ce qui nous distrait trop, quoi, de tous ces bruits et pas trop aller faire toutes les courses partout, parce que c'est du matériel, même si ça fait plaisir de faire un cadeau. Simplifier la vie.
Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pourrez réécouter cette émission sur www.radiorentiel.fr. À la semaine prochaine. Merci à Émilie en régie technique. À bientôt.